Bien le bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le pire reste à venir, la matinale officielle certifiée ISO 9002 du 99.1, du 102.4 et du 95.9 FM. Et oui, mesdames et messieurs, dames, bienvenue dans la matinale du matin qui va bien. Le pire reste à venir. Aïe, d'aïe. Et aujourd'hui, information principale de ce jour, nous sommes déjà le jeudi 17 de l'an 2020. Et oui, mesdames et messieurs, dames, et vous l'avez entendu, monsieur Y n'est pas Jean-Jean, Jean-Jean n'est pas monsieur Y, Damien est bien votre compagnie, on est jeudi, et c'est incroyable, mais vrai, bonjour Guillaume.
Bonjour Deuce, bonjour à toutes et tous. Et puis en fait, j'ai un petit conseil du matin, comme il fait nuit, mettez votre lumière sur votre vélo électrique.
Ouais, c'est mieux.
Jamais, ouais, voilà, si vous n'en avez pas, bah allez chez un. C'est un fabricant, quoi.
Chez un spécialiste.
Un spécialiste, parce qu'un fabricant, ça va être dur.
Vous ne le connaissez pas très bien, monsieur Y, mais il est pas loin des 2 mètres. Et aujourd'hui, il y a 4 mètres dans les studios, puisqu'on a la présence, et c'est un plaisir, monsieur Neno Aseric, coach de la LMFRE. Bonjour Neno.
Bonjour.
Bonjour.
On l'aura pas toute la matinale, on va pas raconter toutes les histoires, mais en France, il y a des process, il y a des démarches, et là, en l'occurrence, c'est médecine du travail pour vous ce matin, c'est ça, Neno?
Exactement.
Donc, du coup, on l'aura là, sur la première demi-heure, et si tout se passe bien, nous aurons aussi le plaisir d'avoir son homologue rouennais, Alexandre Ménard, pour justement tirer la part belle aux deux clubs de la région, les deux plus performants en basket français, puisqu'on rappelle qu'il n'y a pas d'autres clubs normands en Jeep Elite, mais bel et bien le SPO Rouen et la LM Évreux qui sont voilà, des clubs historiques de cette division, la seconde division du basket français, la Pro B. On développera, on échangera, on partagera avec eux. Vous entendrez aussi un extrait d'un micro-trottoir qui va être normalement monté aujourd'hui, demain, grand maxi. Voilà, sur le rassemblement de ces acteurs du milieu de la culture. Ils étaient nombreux. C'était avant-hier devant l'hôtel de ville. J'en ai tiré un petit extrait sonore parce que c'est quand même très parlant, la situation qu'ils vivent. Voilà, vous aurez aussi du répondeur. Vous avez agi dans ce sens et je vous en remercie. On rappelle que le 02 32 62 57 32, je le dis moins vite, 02 32 62 57 32, c'est le moyen de laisser des dons de voix. Vous avez agi dans ce sens, n'hésitez pas. En attendant, il y aura bien sûr des extraits sonores qui viendront s'entrecouper dans nos échanges, mais il y a un morceau classique pour démarrer.
Ouais.
C'est un petit titre de Soul Music. On a tapé dans la Motown Christmas 1970. Oui. Oh, combien de qualité.
Oh, yeah.
Je vous laisse, c'est du bonheur.
Lots of mistletoe, lots of snow and ice, everywhere we go. Choirs singing carols right outside my door. All these things and more,
all these things,
oh, that's what Christmas means to me, my love. It seems I love you more. The little cards you'll give me will touch my heart for sure. All these things and more, darling. Oh, that's what Christmas means to me, my love. Oh, yeah. I feel like running wild, as anxious as a little child. Greet you neath the mistletoe, kiss you once and then some more, and wish you a Merry Christmas, baby.
Wish you a Merry Christmas, baby.
And such happiness in the coming year. Oh, baby, let's deck the halls with holly. Sing sweet silent night. Fill the tree with angel hair and pretty, pretty lights. Go to sleep and wake up just before daylight, and all these things.
Wonder avec ce magnifique morceau What Christmas Means to Me, issu de cette magnifique compilation Motown Christmas sortie en 1970. Ça nous fait déjà du 50 ans d'âge, mesdames et messieurs, dames. Et elle n'a pas pris une ride, cette compilation, cette série de morceaux incroyables, mais vrais. D'ailleurs, compilation, on va évoquer la question tout au long de cette matinale aussi, puisque les pistes sonores seront extraites de la Christmas Tape du Secours Populaire.
Ouais, il y a un documentaire à voir sur les réseaux. C'est un concert après les droits civiques, en fait, en début des années 70, où il y a une quarantaine de soulmen sur scène, et à l'entrée de, comment il s'appelle, de Stax, tu sais, du thème de Shaft, Isaac Hayes, voilà, qui fait une rentrée, un concert phénoménal. Faut voir ça sur les réseaux, je te l'avais montré, ouais, tu l'as pas vu?
Si, j'ai vu, je l'ai vu en entier, mais son entrée, je l'ai vu, elle est incroyable.
Faut le voir, allez fouiller.
Stevie Wonder, What Christmas Means to Me, voilà qui est dit, voilà qui est fait, on n'en dira pas davantage.
Le pire.
Reste à venir.
Bon, allez, debout là-dedans.
De 8h à 9h sur Principe Actif et HDR.
Allez, debout là-dedans, allez.
8h06 sur les internets et partout en France, mesdames et messieurs, dames, en compagnie de Neno Aserich, nous aurons aussi, on vous l'a dit, au téléphone, Alexandre Ménard, entraîneur du SPO Rouen. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu plaisir déjà à échanger avec Monsieur Aserich. C'était au sortir de ce premier confinement. À l'époque, vous étiez en Autriche. Vous étiez sur l'entre-deux saisons. Puisque, voilà, il y avait c'est justement cette gestion d'effectifs. Cette incroyable situation que vous viviez, vous, pour la première fois. Parce que, sans en rajouter des mille et des cents, vous êtes un homme quand même qui a été joueur professionnel, qui est entraîneur depuis de nombreuses années. Vous avez même coaché des sélections nationales. Bref, le basket, vous savez de quoi vous parlez et c'est un plaisir de parler avec vous, Monsieur Aserich. Avant toute chose, comment allez-vous? Parce que, voilà, on avait, au mois de mai, au mois de juin, on n'avait pas imaginé que ça puisse continuer. Comment allez-vous physiquement? Comment allez-vous mentalement? Vous qui vivez ça pour la première fois aussi, tout comme nous, mais vous aussi en tant qu'entraîneur professionnel d'un club professionnel de sport en France.
Bonjour encore une fois, et ça me fait plaisir de venir ici et parler avec vous dans ce studio. Je vais très bien, malgré la situation difficile, malgré la crise sanitaire, confinement et tout ce qui se passe aujourd'hui. Je n'ai aucun problème avec tout ça. Moi, je suis un homme qui relativise beaucoup les choses, qui reste toujours positif. Et à mon avis, il y a des choses encore plus dures et encore plus difficiles que cette situation aujourd'hui. Je viens d'un pays où on avait énormément de problèmes, la guerre, bombardement et beaucoup de choses. Donc, on est peut-être un peu habitué aussi avec la situation particulière, si vous voulez. Donc, physiquement, mentalement, je me sens bien, je n'ai aucun problème.
Ah. Sans être indiscret, parce que c'était sorti dans les réseaux en début de saison, hein. Il y avait bon nombre de joueurs et membres du staff qui avaient été touchés par le Covid. Vous avez été vous-même touché, vous êtes passé à travers ou est-ce que ça a été quand même une situation pénible? Il y en a qui l'ont encaissé correctement, d'autres ça a été un peu pénible et lourd ou un peu long. Vous, c'est passé comme une lettre à la poste?
Oui, moi j'étais touché, mais moi je n'avais pas de symptômes, si vous voulez, ou très peu. Et moi j'étais le premier déjà qui était touché au mois d'août. Après, on était obligé de s'arrêter. Après, on était touché 2-3 joueurs. Après, encore 2-3 joueurs.
Les jeunes du club.
Oui, les jeunes du club et tout ça. Et si vous voulez, aujourd'hui, je pense presque tout le monde était touché.
Ah oui.
Il y a peu de joueurs qui n'étaient pas touchés.
Après, on est tranquille au moins.
Au moins, on est tranquille.
Après, ça, c'est fait.
Ouais, ça,
c'est bon. On met ça sur le côté, les mecs.
Ça,
bon,
c'est fait.
Ouais, parce que c'est incroyable, mais vrai. On a donc Neno Aserich, on vous le rappelle, entraîneur de l'ALM Basket Évreux. C'est pas rien, Évreux,
bah oui.
Voilà, où il y a quand même une grosse histoire avec le basket. c'est qu'il y a quand même, on a un championnat où il y a des équipes qui ont fait 2 matchs et on a des équipes qui ont fait 4 matchs de championnat, je parle. Hein. Ouais. Parce que malheureusement, la Coupe de France risque d'être annulée. La Leaders Cup a été revue et a été condensée sur tout le mois de novembre. Elle est, cette saison, encore partie pour être incroyable et surprenante. Voilà, donc on a Quimper qui n'avait pas fait de match pendant très longtemps parce qu'eux aussi ont été impactés, mais un peu en décalé sur son effectif. Bref, les équipes vivent la situation d'une manière différente. C'est vraiment incroyable, cette situation. Comment, justement, ça se passe au moral des troupes, comme j'ai envie de dire? Est-ce que les joueurs restent quand même focus? Vous arrivez à travers des exercices ou peut-être des activités en plein air, peut-être de course à pied ou je sais pas moi, de rendez-vous, à les maintenir légers, investis, parce que c'est ça aussi votre devoir et qui n'est pas simple, encore une fois, que bien sûr de mettre en place des entraînements de qualité, d'entraîner et de coacher tactique sur le bord du terrain lors d'une rencontre. Mais comme il y a moins de matchs pour l'instant, comment on les maintient dedans, tout simplement?
Bien sûr, vous avez complètement raison. C'est une situation vraiment difficile à gérer, surtout mentalement. Mon travail s'effectue beaucoup, depuis le début, beaucoup sur l'aspect mental, sur l'aspect psychologique. Moi, je parle beaucoup avec mes joueurs, pas seulement à propos de basket. Moi, j'essaie vraiment positiver les choses. J'essaie vraiment de passer un message que dans la vie, il y a période haut et bas. On est actuellement dans une période bas. Et donc, on doit être fort dans notre tête. On doit montrer le caractère fort et ne pas subir de ces situations. Donc, tous dans la vie, qu'est-ce que vous ne pouvez pas influencer, il ne faut pas casser trop la tête là-dessus. Donc, situation aujourd'hui, on n'a aucune influence. On ne peut rien faire. On peut respecter la règle sanitaire, apporter le masque, avoir moins de contact avec les gens, mais dans notre cas, c'est difficile aussi.
Oui.
On est les sportifs à haut niveau et on ne peut pas exister sans contact.
Ouais, parce que, alors, on va le préciser, tout le monde n'est peut-être pas au courant, mais par exemple, en France, aujourd'hui, les sports collectifs vont reprendre tout doucement en salle, pour les mineurs, pour les moins de 18 ans, mais sans opposition. Il ne doit pas y avoir de contact. Voilà, moi, je connais des gamins là qui ont repris le foot sur les terrains, qui sont dans des clubs et qui ont le droit de faire des exercices, contrôle le balle, mais qui n'ont pas le droit de jouer les uns face aux autres. Et là où c'est très atypique, c'est que le monde professionnel a été quand même, et c'est normal vu que a déjà été impacté en soi puisqu'il n'y a pas eu des matchs régulièrement, mais surtout doit s'entraîner, doit avoir de l'opposition à l'entraînement. C'est ça aussi pour susciter de la qualité et faire progresser le groupe. Il faut l'opposition. Donc quelque part ils étaient privilégiés, mais en même temps c'est complètement atypique et incroyable cette situation.
Si vous voulez, c'est impossible.
Bah ouais. Sur la pique, c'est impossible.
Jouer le basket sans opposition, c'est impossible.
Bah oui.
C'est pas du ping-pong,
on met. On peut pas mettre un mannequin.
Exactement.
Bah ouais, c'est comment on fait, quoi.
Exactement.
Ouais, c'est un peu bizarre. Neno, cette équipe, elle est chouette. Il y a de bon nombre de spécialistes et moi, j'en profite un petit peu. Hein.
Vas-y.
Elle est très équilibrée, je trouve. De vrais beaux joueurs, de jeunes joueurs talentueux. Zamora qui reste. Une raquette intéressante et solide, Pacha qui est resté, des joueurs qui sont restés et des jeunes joueurs qui sont venus, on pense à Dali, apporter un petit plus aussi. Il y a eu ce joueur qui a été blessé, Saïd Hussein, mais Barueta qui le remplace et je pense que vous n'y perdez pas au change. Vous êtes toujours content de cette équipe? Comment vous la sentez? Parce que là, c'est que le début de saison, malgré ce qui est étonnant, on est au mois de décembre. On peut dire que c'est le début de saison, monsieur Asseric. Donc, certes, il y a 0 victoire et 3 défaites, mais ce n'est pas grave selon moi, puisque c'est le début de saison du championnat. Comment ça se passe? Comment vous en êtes toujours content? Vous êtes agréablement surpris? Vous êtes fier de votre groupe? Je crois que vous avez entendu dire qu'il travaillait bien. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous en êtes content?
Je suis déjà très content avec mon groupe, très fier de mon groupe, malgré 3 défaites qu'on a encaissées, 3 premiers matchs de la championnat. Mais comme on a dit, sachant qu'on passe une période difficile avec tout ce qui se passe autour de nous, il faut ajouter énormément de problèmes que nous, on avait personnellement avec des blessures. Nous, on a recruté deux joueurs, par exemple, Pepo Barral et Bachir Ahmed, pour être deux leaders de l'équipe. Aucun de ces joueurs a joué un match officiel.
Ah oui.
Bachir, il s'est entraîné une semaine, il s'est blessé, mais il était déjà un peu blessé avant. D'abord, il est venu en retard, très en retard, plus qu'un mois en retard, un mois et demi en retard. Pepo Barral, la même chose, problème visa en retard. Il avait Covid, il avait les ampules infectées. Après, il avait les chevilles blessées. Et le dernier match, c'était un choc énorme.
Et là, il vient de se reblesser, malheureusement, c'est cela ?
Sur l'échauffement. Il s'est blessé sur l'échauffement avant le match contre Quimper. Donc, premier match contre Vichy, on joue sans trois joueurs majeurs.
Grave.
C'est vraiment grave. Deuxième match contre Denain, on joue sans deux joueurs majeurs. Et le match contre Quimper, on joue sans non-meneur.
Le meneur, ouais, titulaire.
Non-meneur, titulaire. Donc, c'est très difficile. On a une équipe qui est construite, et moi j'ai fait ça exprès, c'était mon planning, pour construire une équipe jeune. On a deux joueurs sur les sept postes meneurs. Antoine Da Silva et Dimitri Radic qui peut dépanner et aider sur le poste de meneur. Mais ils sont deux joueurs sans expérience qui jouent les premières saisons professionnelles. Et le problème, on ne peut pas demander les joueurs jeunes qui n'ont aucune expérience pour apporter le jeu et pour prendre autant de responsabilités. Et ça nous pose vraiment énormément de problèmes, surtout la pose de meneur.
Ouais, parce que on rappelle que dans le basket, hein, monsieur Assérich, alors déjà que la Pro B est considérée comme la division la plus solide, la plus consistante de tous les championnats européens de basket. Hein,
oui.
C'est clairement la meilleure division, la seconde de celle de France.
Oui.
Et la deuxième chose, c'est que on dit toujours un petit peu de manière stéréotypée et raccourcie, mais pourtant c'est pas faux. C'est que la colonne vertébrale d'une équipe de basket, c'est le poste 1 et le poste 5, c'est-à-dire le meneur et le pivot titulaire. Alors bien sûr, on pourrait pas avoir deux excellents joueurs là et puis que des chèvres à côté pour que ça fonctionne, mais c'est l'axe principal. Et là, en l'occurrence, le poste 1, à cause de blessures et d'une fragilité peut-être, je ne sais pas, malheureusement, ou pas de chance tout simplement aussi, ça rentre en compte, est souvent blessé. On sait un petit peu la durée de son indisponibilité à Pedro Barral
Jusqu'au fin janvier.
Bon, est-ce que du coup, il y a beaucoup de matchs d'ici là? Est-ce qu'on réfléchit à le remplacer?
Oui, bien sûr, on doit le remplacer, on doit trouver un joker médical, parce que continuer comme ça, ça va être difficile, ça va être vraiment... vraiment compliqué pour nous. On a vu un match à Quimper, on a pas bien entamé le match, on était mauvais en défense premier mi-temps, mais après on s'est retrouvé en défense, on a joué très bonne défense deuxième mi-temps, on est revenu au score à première reprise, mais on avait énormément de problèmes en attaque. Et chaque fois quand on a eu la chance à revenir complètement le match, on a raté quelque chose de facile, on n'avait pas assez de contrôle pour revenir complètement le match.
Ouais.
Donc c'est indispensable replacer et engager un joueur.
Alors il sera pas forcément là pour ce dimanche qui est le jour de la prochaine rencontre de la LM Basket. On l'a pas précisé, mais ce dimanche à 16h. Neno, vous recevez Antibes que vous connaissez bien, un club que vous côtoyez depuis toujours. Et donc, c'est celle, la prochaine rencontre qui se déroulera en terre hébroïcienne. Alors, les gens ne peuvent toujours pas se rendre dans le gymnase, malheureusement. Mais on espère que ça bougera pour tous les amateurs de la balle orange, que ce soit à Rouen ou Évreux. Et parce que Évreux, pour la rappel, à Évreux, il y a un club de basket. Mais en fait, c'est tout le département qui se déplace pour venir la voir.
Ouais, ouais.
Les gens viennent de Gannon, de Pont-en-Mer, du Neubourg pour venir voir des matchs de la LM Évreux, de Louviers, bien sûr, et de Conchon. En ouche, bref, et bien sûr d'Evreux. Donc, prochaine rencontre Antibes ce dimanche avec un joueur incroyable qui avait été drafté, qui a été signé 3 ans, c'est très rare dans le milieu du basket, ou 5 ans même peut-être, ce joueur américain.
Ouais, ouais.
À Antibes, ils ont fait un truc qui est très rare dans le milieu professionnel du basket, ils ont signé un américain 3 ou 5 ans. Hâte de le découvrir et de le voir. J'espère qu'il sera pas très bon ce dimanche, et là, c'est un peu mon côté chauvin. Pas de d'autres particularités avant dimanche, Neno, on a compris que Pedro Barral est blessé. Le reste de l'effectif, tout va bien, ça s'entraîne bien, ça bosse bien.
Le reste d'effectif, tout va bien. Aboudou Sidi B, il a un petit souci avec son genou. Il avait un peu d'inflammation la semaine dernière. On essaie de le gérer un petit peu, mais à mon avis, il va être opérationnel. Il a un peu douleur au niveau de son genou. Sinon, les autres, ça va.
Meilleur rebondeur de l'équipe à la dernière rencontre, je crois, un 12 prises, hein, quelque chose comme ça.
13
même, voilà,
13
important.
13 rebonds, et c'est très important, que lui il soit prêt. Physiquement, à jouer contre une belle équipe de l'Antibes, qui possède une qualité physique énorme. Un joueur qui a joué NBA, un très bon joueur qui est actuellement le meilleur marqueur de la Ligue.
Alors ça, il y a un plan spécial. Est-ce qu'on réfléchit quand on a affaire à un... Quand on est Neno assez riche, est-ce qu'on se dit, bon, ça sert à rien de mettre un joueur définitivement sur lui, en tête à tête, en strict, ou qui lui collerait au basket, parce que de toute manière, il marquera ses points, ou est-ce qu'au contraire, on va essayer des coups, est-ce qu'on va essayer quelque chose pour peut-être le freiner et que la balle lui arrive moins dans les mains, avant ou après? Comment vous voyez les choses, vous, Neno, là-dessus?
Moi, je vois les choses, parce que c'est un sport collectif, donc il ne faut pas se concentrer trop sur un joueur, il faut se concentrer sur nous d'abord, sur nos concepts défensifs et être vraiment concentré sur nos concepts et replier nos concepts. Moi, j'étais moins content les derniers matchs contre Quimper parce qu'on n'était pas tout à fait concentré à 100% pendant 40 minutes. Et donc, ça, c'est la clé pour une victoire. Rester focalisé, garder le focus sur les petits détails, sur nos principes d'offensive et offensive. Et comme ça, petit à petit, on va bâtir une victoire contre n'importe quelle équipe. Donc,
bien
ça,
démarrer c'est... le match déjà, c'est important. Premier carton était compliqué à Quimper.
Ouais.
Et puis renouer avec la victoire et puis lancer sûrement une dynamique parce que sincèrement, amis auditeurs, auditrices, soyez curieux parce que la rencontre est diffusée sur LNB TV.
Ouais.
Vous pouvez suivre le match et vous reconnaîtrez peut-être des voix d'ailleurs du commentaire. C'est que vous allez voir une belle équipe hébroïcienne avec vraiment des qualités, vraiment un effectif franchement très intéressant et on lui souhaite justement de trouver les clés pour la victoire. Neno, comment vous vous occupez en dehors de ça? J'ai oublié de vous demander sur Évreux. On ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas aller au cinéma. Vous avez de la famille à l'étranger, mais heureusement, je crois, votre compagne, votre femme qui est avec vous. Comment on s'occupe à Évreux, mince? Il y a déjà pas mille choses à faire. Et du coup, heureusement, votre activité professionnelle est maintenue. Vous regardez beaucoup de matchs, vous lisez, qu'est-ce que vous faites, Neno? Comment vous occupez?
Oui, je m'occupe toujours avec quelque chose. Donc, moi, je ne m'ennuie pas. Donc, ça, c'est sûr. Je regarde beaucoup de matchs. Pas seulement de Pro B, nos adversaires. Quand on a joué, j'ai regardé beaucoup de matchs à Euroleague, par exemple, Eurocup. Je me promène aussi de temps en temps avec mon épouse. On sort.
Vous avez un beau chien, je crois aussi.
Hein?
Vous avez un chien?
Un chien aussi.
Ouais, j'ai cru voir passer. En fait, il habite pas loin de la radio.
Mais c'est pas mon chien.
Pas l'autre.
C'est le chien de ma fille.
D'accord.
Mais ma fille, elle n'est pas actuellement et on doit rendre le chien en Autriche. Donc, c'est pas nos chiens, mais c'est bien aussi avec le chien.
On se promène.
Le chien et passer le temps avec le chien parce que le chien, il donne un peu l'énergie positive aussi.
Bien sûr.
Donc, je lis pas mal. Ouais. J'aime bien lire. Et donc, comme je dis, je ne m'ennuie pas. Je m'occupe toujours avec quelque chose.
Comment ça va, les amis, la famille en Autriche? Parce que c'est là-bas que vous résidez. Hein. On rappelle, vous êtes d'origine serbe, mais vous avez aussi la nationalité autrichienne. Et vous vivez, je crois, c'est votre résidence hein, en Autriche.
Oui, oui.
Comment vont les amis? Comment va le pays face à cette pandémie aussi? Les échos que vous pourriez avoir? Parce que là, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, vous ne pouvez pas ou vous pouvez rentrer? Comment ça va se passer pour vous?
L'Autriche, oui, c'est une résidence. Notre résidence, mais notre résidence, c'est la France, Autriche, Serbie. On a la résidence partout.
Ça va.
On se bouge beaucoup, on voyage beaucoup. L'Autriche, c'est un pays magnifique. On a vécu là-bas depuis longtemps. Longtemps. Maintenant, on n'habite pas là-bas, mais longtemps, on a habité là-bas. Et on a toujours de très bons amis là-bas. Notre fille, elle habite à Vienne, elle travaille là-bas. Donc, on est lié aussi,
à l'Autriche, ouais.
Avec l'Autriche. Et on va rester toujours liés avec vous.
Ah, donc là, il n'y a plus de pied-à-terre. Mais vous avez quand même des amis, peut-être les nouvelles, quelles sont-elles? Vous les avez un petit peu?
On a beaucoup d'amis là-bas.
D'accord.
Et on est régulièrement en contact avec eux, également comme avec la famille en Serbie et les amis en Serbie.
Il y a de grosses différences sur la gestion de la Covid et de cette pandémie dans ces pays par rapport à la France, parce qu'on a peu d'écho, tiens, de comment ça se passe chez nos voisins européens.
Non.
Tout est fermé aussi, c'est un peu pareil.
Il n'y a pas de grosses différences. En Autriche, oui, ils sont resserrés aussi un petit peu tout. Il y a une augmentation de cas positifs comme partout en Europe, en Serbie aussi, partout. Partout en Europe, c'est la même chose. Donc, partout. Mais bon, chacun essaie à gérer ça
à sa manière.
À sa manière.
Aux yeux, ouais.
À sa manière. Mais tout le monde se préoccupe avec tout ça, comme nous ici en France.
Ouais.
Et tout le monde essaie à sortir de la meilleure façon possible.
Bien sûr. On reste positif et optimiste. Neno, je vais devoir vous libérer, effectivement. On va vous souhaiter une belle rencontre ce dimanche,
ouais.
À suivre sur les réseaux internet, parce qu'il y a eu un système mis en place. Vous pouvez assister aux rencontres de Pro B, mais aussi de Jeep Elite en direct. Et ça, c'est quand même bien fait. Voilà, vous pouvez le voir via une application. Soyez curieux, amis auditeurs, auditrices, n'hésitez pas. Neno, mille merci d'être venu ce matin. Je me permettrai de vous repasser un petit coup de fil durant la saison, savoir comment vous allez, que vous veniez peut-être nous parler un peu de l'équipe, de la dynamique, et très certainement qu'elle sera remontée dans l'équilibre victoire-défaite. Je n'en doute absolument pas. En tout cas, c'est un plaisir.
Ouais, ouais.
Monsieur Assirich est charmant. Monsieur Assirich sait de quoi il parle dans le milieu du basket, et on l'avait ce matin avec nous. On va passer un petit coup de fil du côté de Rouen pour avoir Monsieur Ménard. Merci beaucoup Neno, une belle journée à vous.
Je vous en prie.
Et puis moi je pars en musique avec un extrait de la Christmas Tape et Apollo. Et oui, on est bien sur Principe Actif, on est bien sur HDR et on est pas mal. It's the beautiful.
Ça, c'est la compilation Secours Populaire Noël Vert, c'est ça.
C'est ça. Ah, on l'a pas mal saigné hein, cette semaine.
D'ailleurs, on peut en parler brièvement, pas de la compil, parce qu'on a déjà parlé, on pourra en reparler.
On peut quand même rappeler la cagnotte, quand même.
Pardon, oui, c'est ça que je voulais dire, en fait. C'est
parce que, c'est jusqu'à demain.
Et à combien, là?
Ah, c'est pas mal, hein.
C'est combien?
Ah, bah, on a passé 1 000 000 d'euros depuis un moment. Ah, il y a plus de 160 chouette. Personnes qui ont participé. Et donc, toi, ami auditeur, auditrice, l'as-tu déjà fait de partager à cette cagnotte? Parce qu'en vrai, tu vas sur le Bandcamp, je te dis la vérité, peux télécharger la tape. Hein, et
oui,
t'as pas besoin de lâcher un lové.
Mais c'est des cadeaux pour les minots.
Mais voilà, mais t'es pas une pince.
Non.
Tu sais où ça va l'argent?
Ouais.
29 artistes du département voilà, ont agi dans ce sens. On veut quand même le rajouter, le rappeler, le redire. C'est hyper important.
Et puis. Voilà, donc comme tu dis, c'est hyper important pour les minots. Et c'est aussi que le Secours Populaire, à savoir, a des nouveaux locaux. Ils sont plus sur la Madeleine, ils sont sur la zone franche de Guichainville. Et en fait, je vais pas citer de marque, c'est Schneider Electric, on peut le dire, on dira pas les autres. C'est pas loin, il y a un arrêt de bus. Donc allez-y, il y a sur l'aide alimentaire, l'aide vestimentaire, les voyages, les activités pour les gamins. Il faut y aller, voilà.
C'était Apollo avec, au fait, on n'a pas des annoncés.
Pardon.
It's Still Beautiful. Très beau morceau, voilà, des frères Jaouette, voilà.
Ah,
pas dire mieux, pour pas dire moins.
On ne savait pas.
C'était sympa, voilà, je vous en rajoute pas.
Bien.
C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Sur HDR et Principatif.
Je vous propose d'écouter un extrait, Yom, et je souhaite que tu fasses très attention à ce qui va être dit.
Je vais faire attention.
Un micro-trottoir réalisé sur la place de l'Hôtel de Ville, c'était il y a 2 jours, à l'appel voilà, des acteurs du monde de la culture. Ils sont techniciens, ils sont musiciens, ils sont salariés des salles de spectacle ou de troupes de théâtre, ou juste artistes bénévoles. Voilà. Ils étaient en masse et en quantité ce mardi 15. En lieu et place de l'Hôtel de Ville d'Evreux. On a traîné nos micros avec l'ami Jean-Jean. On devrait vous faire un petit montage audio qui va bien pour demain si tout se passe correctement. En attendant, on en a extrait un morceau d'un jeune. Je vous laisse avec.
Allons-y.
Et puis, on met un petit peu de musique. Et si tout se passe bien, on passe un coup de fil du côté de Rouen.
Ouais. Bonjour. En fait, s'il te plaît, est-ce que tu es salarié? Est-ce que tu es technicien du monde du spectacle? Est-ce que tout simplement, tu es consommateur de concerts et autres
Bonjour. Moi, je suis étudiant en art et aussi consommateur, du coup. Je suis en prépa métier des arts, juste ici, là, à la maison, à côté.
Et pourquoi tu es là aujourd'hui, toi?
À la base, j'étais vraiment pas au courant de ce qui se passait. Puis c'est une professeure qui nous a mis, qui nous a alerté là-dessus. Je suis là parce que je me sens concerné, forcément, parce que si je suis en école d'art, c'est pour forcément faire mon métier plus tard. Et peut-être dans 3 ans, ce sera fini cette crise. Mais aujourd'hui, ça va impacter énormément le milieu. Et je veux pas que ce milieu disparaisse, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont mettre la clé sous la porte, que ce soit dans les théâtres, les concerts, et même plus loin, les restaurants, tout ça. Donc forcément, je me sens concerné.
Justement, pour toi, en quoi il est très important de réouvrir les conservatoires, les salles de spectacle, les lieux de diffusion?
Pour moi, c'est des lieux de culture, des lieux où on apprend, du partage. Et en fermant ça, on ferme le contact avec les gens, en fait. Et... c'est possible de réouvrir. Enfin, j'ai vu ça dans d'autres pays. Ils rouvrent par petits groupes de, groupe de 15 pendant une heure. On a le droit d'entrer dans le musée, dans la salle d'expo. Alors bien sûr, il faut toujours quand même
la distanciation, voilà,
règles. Voilà, les règles. Il faut quand même des réglementations. Ça, c'est normal. Il ne faut pas non plus mettre en péril d'autres personnes et que les hôpitaux soient surchargés encore une fois. Mais faut réouvrir. Quoi. Arrêter.
Albert Camus a dit « Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude ». Qu'est-ce que ça t'évoque ?
Ça m'évoque qu'aujourd'hui, on est en train de fermer tout ça. Que dans toutes les périodes historiques où les personnes n'avaient pas accès à la culture, n'avaient pas accès au savoir, c'est des gens qui ont mal tourné, c'était des périodes qui ont mal fini. Et aujourd'hui, on va peut-être pas perpétuer ça, mais aujourd'hui, si on ferme ces lieux-là, qu'on a plus d'apprentissage, si on a plus de culture, qu'est-ce qui va arriver, quoi. Well, I'm hard working as 12 my stuff. They hung so strong hold. My eyes are bright, but I'm just mad. Stuff to shake you hold. Let me go home. Like a whisper in the sun. Let me go home. Because I know you
Messieurs, dames, il s'agissait d'un deuxième extrait de la Christmas tape, voilà, au profit du Secours Populaire. On vous rappelle qu'il y a une cagnotte Litchi, franchement, 3 balles, 5 balles, 7 balles, n'hésitez pas à aller mettre un billet, et ça permettra peut-être d'offrir un cadeau à un gamin sous un sapin.
Excuse-moi, ça rate quand la cagnotte?
Demain.
Ah voilà,
voilà, bien vu.
Demain
bien
minuit,
vu.
Je pense à ça, les créneaux. Demain.
Exactement.
Oh bah c'est bien, c'est bien. Et c'est, ça va passer à la télé.
À la télé.
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio.
Au cinéma.
Radio, alors,
à la presse.
Sans être,
grand écran.
Oui. Principe actif à Évreux.
Oui. Smartphone.
HDR à Rouen.
Oui.
Bah, votre carré.
Merci de toutes ces précisions.
HDR. Ouais. Principe actif.
On avait écouté aussi Gang of Venus, j'ai oublié de le préciser, oui. Et de désannoncer. Ça a été un peu speed sur la fin de morceau, mais tout va bien normalement, techniquement, on est avec vous. Alexandre Ménard, bonjour.
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 Merci de votre disponibilité, je vous disais au téléphone, et désolé, on n'a pas eu le temps de longtemps converser hors micro, parce que tout simplement, j'avais une fin de morceau, et on venait de saluer Neno Seric, sachez-le, monsieur Ménard. J'avais à cœur d'avoir les deux entraîneurs de ces deux plus grands clubs normands du basket français, puisqu'il n'y a pas de club au Normand, ou Normand tout court, pardon, Angip Elite, la première division, mais bel et bien Rouen et Évreux, qui sont de solides bastions de cette discipline, en Normandie, en Pro B, le deuxième niveau national. Neno Seric, qui, pour la petite anecdote, allait pas mal, monsieur Ménard, et je sais pas ce que vous allez me dire derrière, si vous avez fléchette, ou piscine, ou, comment dire, ou step, mais lui avait visite médicale, quand même. Donc on l'a libéré, visite médicale. Ok, monsieur Neno Seric, parti. Merci, je vous le disais, amis auditeurs, auditrices, on faisait une spéciale basket parce que, bah voilà, le sport, on parle beaucoup de la culture sur notre antenne, on parle bien sûr beaucoup, on a parlé récemment des restaurateurs du monde, voilà, de bouche, des métiers de bouche qui sont fortement impactés dans cette situation. Et puis, y en a, encore une fois, certes, qui peuvent pratiquer leur métier, donc on peut par exemple parler du sport professionnel de haut niveau, mais en même temps, il est quand même mis à bas et dans des conditions assez particulières, hein, Monsieur Ménard. Je vous avais eu au mois de mai, mois de juin, voilà, on sortait du premier confinement, vous nous aviez confié que vous étiez un peu adonné au bricolage. Est-ce que vous êtes ceinture noire bricolage maintenant d'ailleurs ?
Alors, j'ai pas eu le temps de me remettre au bricolage, parce qu'on a repris la saison, mais je dois avouer que j'étais très fier de moi durant cette petite période. Je me suis découvert des talents, pas énormes, mais juste un petit peu de débrouillardisme, et j'ai été bien aidé par ma famille aussi.
Alors, en tout cas, moi, j'avais eu à cœur de vous avoir, parce qu'encore une fois, pas de préférence sur notre antenne, hein, on est diffusé sur Évreux, sur Rouen, on a les deux coachs solides, et en plus, sympas comme tout, donc c'est d'autant plus simple. Avant tout, comment allez-vous, Alexandre ? Parce que, voilà, il y avait un premier confinement, on découvrait un peu cette situation, vous adaptiez un petit peu votre fonctionnement, vos discours, votre lien à votre effectif et forcément à ce qui vous entoure. Aujourd'hui, on est au mois de décembre et on a l'impression qu'on revient un peu à la même situation, même si en vrai, par contre, on peut quand même bosser. Comment allez-vous et comment digérez-vous la chose ?
Alors, à titre personnel, ça va très très bien. Moi, j'ai été déclaré positif au Covid au mois de septembre, il me semble, mais sans symptômes du tout. Donc, c'est vrai que nous, on se sent un petit peu éloigné de la situation sanitaire, puisque ça fait 6 semaines maintenant qu'on est négatif chaque semaine, que tout l'effectif est négatif. Donc, c'est vrai qu'on est un peu en décalage par rapport à ce que peuvent certainement vivre des familles. La vraie difficulté pour nous, c'est de focaliser l'attention des joueurs sur des échéances. Et c'est vrai que durant les 4 à 5 semaines de confinement, ce n'était pas facile de mettre comme échéance seulement des matchs amicaux. Et c'était plus facile dès qu'on a su qu'on a pu reprendre avec ces 4 dates, 2 au mois de décembre et 2 au mois de janvier. Au moins, on savait pourquoi est-ce qu'on travaillait.
Ouais, c'est sûr que j'avais posé la question à Monsieur Asseric. Comment on les maintient focus, quoi, ces joueurs, puisque bah voilà, eux ils s'entraînent pour des oppositions, pour des rencontres. En tant qu'entraîneur, bien sûr, vous vivez aussi pour cette chose-là. Même si bien sûr, quand on est entraîneur de haut niveau, on établit certains liens et peut-être qu'aussi on est un peu non pas école de la vie, mais voilà, il y a de l'humain dans la gestion d'un collectif et d'une équipe comme ça où qui est composée de plusieurs personnes et de plusieurs êtres. Mais ouais, comment ça se passe du coup pour les est-ce qu'il y a de nouvelles recettes que vous avez mis en place ou vous avez été puisé dans d'autres pratiques peut-être je me permets hein, mais la spiritualité la mise en place de liens entre joueurs à travers de nouveaux exercices, nouveaux jeux ludiques ou pas, est-ce que vous êtes resté très basket?
Il y a plusieurs choses qu'on a essayé de mettre en œuvre avec plus ou moins de réussite d'ailleurs. Déjà, on a essayé de s'intéresser aux individus, tant sur un plan physique que technique, en essayant de leur proposer individuellement des progrès à faire, et donc des programmes de prise de masse, de gains en termes de vélocité, plein de choses comme ça. Et puis sur un plan technique, sur les jeunes joueurs surtout, développer les points faibles, améliorer les points faibles. Ensuite, on a très vite aussi fait le comparatif entre... un commerçant qui peut pas ouvrir, qui a une perte de salaire et qui n'a pas d'action et qui n'a pas d'interaction en fait avec la société, et nous qui avions la chance de pouvoir nous voir chaque jour, d'avoir une interaction entre nous, d'être testé chaque semaine aussi, donc de pouvoir exercer notre profession en toute sécurité et donc de pouvoir faire du sport, ce qui est quand même plutôt bon pour la santé quand même, je pense. Donc oui. C'était aussi de quelque part mettre en avant cette chance que l'on avait, bien sûr les matchs amicaux pour garder une opposition. Alors, et on a joué contre Évreux d'ailleurs, dans un match qui était fort intéressant. Et puis pour finir, on a essayé de développer en termes de basket sur un plan collectif des choses un petit peu nouvelles qui pourraient nous servir plus tard. On a développé des outils qu'on n'aurait peut-être pas eu le temps, qu'on n'aura peut-être pas le temps de développer plus tard lorsque les matchs vont s'enchaîner. Donc on a essayé de faire un petit peu tout ça et puis sur le gâteau, je dirais, j'ai la chance d'avoir une connaissance qui fait de la sophrologie, qui est en train de passer son examen, et donc qui nous a proposé de nous faire bénéficier de son stage afin de nous faire profiter une fois par semaine d'une séance d'une heure de sophrologie qu'on continue de suivre par ailleurs, et je trouve que ça a été aussi quelque chose de très très bénéfique.
Merci, c'est très intéressant. Vous l'avez exprimé, Monsieur Asseric disait aussi qu'il fallait relativiser. Que effectivement vous aviez la possibilité de pratiquer votre profession et quand on voit autour de soi effectivement des gens qui ne le peuvent pas On se sent non pas privilégié, mais en tout cas, il faut se rappeler qu'on a cette chance. Justement, est-ce que vous avez dû intervenir ou naturellement vos joueurs ou les gens que vous croisez dans votre profession et dans votre domaine s'en souviennent? Est-ce qu'il est parfois nécessaire de rappeler la chose ou est-ce que naturellement, voilà, les gens ne l'oublient pas?
Le problème pour un sportif, c'est qu'il a l'habitude d'être vu, mis en avant, jugé après chaque prestation, à chaque prestation. Et on a bien vu lors du premier confinement que les sportifs qui sont ressortis de cette période un peu difficile ont parfois eu des difficultés. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de la cabane, où on a du mal à ressortir parfois, et il est bon parfois de rappeler que bah, nous, on n'est pas dans une cabane, ou alors on est dans une très très grande cabane, qui est le Kind Arena. On a la chance de pouvoir sortir, d'avoir un justificatif, et c'est vrai qu'il est bon aussi parfois de se rappeler que de transpirer, que de courir après un ballon, bah finalement c'est pas si dur que ça, et que effectivement on est des privilégiés. Mais je dirais que j'ai affaire à un groupe de joueurs qui est très très sain déjà, qui s'entend très très bien, et puis qui était heureux de venir à la salle pour faire de la muscu. J'ai même envie de dire qu'on s'est entraîné presque plus fort qu'en saison normale, parce qu'on savait qu'on pouvait être fatigué le vendredi, puisqu'on n'avait pas d'échéance très très importante.
Je veux bien que vous m'éclairiez, je connais le syndrome de Stockholm, je connais celui de Peter Pan, c'est quoi celui de la cabane?
Bah, le cabane, c'est le fait d'être enfermé longtemps, et quand on est un petit peu contraint et forcé, et ensuite on a peur de sortir de la cabane quand on est autorisé. C'est un petit peu ça l'idée.
Parlons un petit peu basket. Effectivement, ça avait été intéressant de vous retrouver à Évreux, et donc Évreux s'est déplacé aussi à Rouen, là, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était dans le cadre de la Leaders Cup, de belles oppositions, l'équipe, enfin des deux côtés c'était le cas, n'était pas totalement en place, voilà, il n'y avait pas eu bon nombre de matchs avant, le début de saison qui avait été décalé, les arrivées de joueurs du côté hébroïcien qui avaient été aussi un peu en retard, avec un petit retard à l'allumage. Aujourd'hui, vous pointez avec 3 victoires et 1 défaite, c'est plutôt un début de saison satisfaisant, même si vous entendez, Monsieur Ménard, je dis bien début de saison à la mi-décembre, ce qui est incroyable, quoi. Mais c'est plutôt un bon début de saison pour le coup.
C'est tout à fait paradoxal, ouais. Effectivement, d'être à la mi-décembre et d'avoir joué que 4 matchs. On est satisfait de ce début de ces 4 matchs, même si j'ai envie de dire que le match le plus abouti, c'est notre défaite à Nancy, où on s'est présenté là-bas avec 2 joueurs en moins, et je pense qu'avec peut-être une rotation de plus, on aurait eu le gaz nécessaire pour parachever cette œuvre, parce que on était encore devant à la fin du 3e quart-temps là-bas, et c'est pas une mince affaire.
Ah non, Nancy, c'est costaud.
Et donc, par conséquent, oui, on est satisfait. On a un match qui arrive très important et très difficile.
Demain.
À Saint-Quentin, demain. Mmh. Ce sera un match compliqué pour nous, parce que c'est une très belle équipe, très très bien coachée. Et c'est vrai que partir pour les fêtes avec un bilan de 4-1 nous satisferait pleinement.
Oui, c'est demain à 18h, hein, c'est cela, coach Ménard.
Exactement.
Voilà,
exactement.
Parce qu'on on rappelait à tous les fans et amateurs de basket que dimanche, ils pouvaient assister à Évreux face à Antibes, mais demain à 18h vendredi, voilà une rencontre qui opposera Saint-Quentin à domicile avec OSPO. Ouais, c'est quand même incroyable, coach, puisque, comme on le disait, vous avez fait 4 matchs, Évreux en a fait que 3, et d'autres équipes n'en ont fait que 2, pour l'instant. C'est incroyable.
C'est très perturbant, et c'est vrai qu'il y a une forme d'inéquité, mais que personne n'a voulu, qui est liée,
bien sûr,
à la pandémie. Et c'est difficile de se situer quand on voit les classements, soit en G-Pelite ou en Pro B. Y a des telles différences entre le nombre de matchs joués, les états de forme aussi qui sont très très différents. Et puis il y a des choses qu'on n'explique pas. Une équipe comme Nantes, par exemple, qui a été touchée durement par le Covid pendant 4 semaines avant de jouer ses premiers matchs, est allée gagner à Fos, est allée gagner à Vichy, alors qu'on aurait pu penser qu'ils n'étaient pas encore tout à fait prêts. Donc c'est une saison qui offre son lot, qui offrira encore une fois son lot de surprises, mais je pense encore plus importante. Et c'est encore exacerbé par le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs dans les salles, ça offre la possibilité encore plus, je pense, d'avoir des surprises.
Ouais, parce que forcément, là pour le coup, l'apport du public parfois, et qui vous qui avez été sur un banc de touche quand même avec un club qui a joué la Coupe d'Europe, qui est entraîneur premier d'un club professionnel depuis de nombreuses années, voilà, on est d'accord de le rappeler parce qu'il y a peut-être pas que des amateurs de basket ou de la balle orange qui nous écoutent que ouais, c'est primordial l'apport du public. Et là, il y a rien du tout de public. On compte une dizaine de personnes, les officiels présents, les arbitres. Il y a même pas les femmes, les compagnes des joueurs. Hein, vous me confirmez. Hein. Il y a personne. Il y a que les officiels et les journalistes, quelques-uns.
Et c'est très perturbant.
Ah bah, bien sûr.
On sait bien que le mental est très important dans le sport de haut niveau. Le fait de se faire tenser, de se faire bouger, de se faire applaudir, de se faire huer parfois, fait qu'on a envie de se transcender encore un petit peu plus fort. Et je parle en tant que coach, mais j'en suis persuadé en tant que joueur, mais aussi en tant qu'arbitre. Et dans des salles comme Évreux, par exemple, évidemment, on connaît toute l'importance du public et la ferveur qu'il a et pour pousser son équipe. Et on se rappelle tous de dizaines de matchs qu'on a pu remporter grâce à l'apport du public, et là, on ne l'a plus.
Ouais, c'est fou.
Ça va revenir, quoi.
Ouais. En plus, on peut en... Deux secondes, vous, Alexandre, vous êtes déjà, au-delà d'être un passionné et d'être un grand professionnel, vous êtes curieux et attentif à ce qui se passe. C'est quand même incroyable, et je le rappelle, hein, c'est qu'aujourd'hui, les mineurs vont retourner dans les gymnases, vont pouvoir repratiquer cette discipline qui... dans laquelle vous êtes pleinement investi, chose qui n'était pas encore le cas il y a quelques jours, mais pas le droit d'être opposé, pas le droit de faire d'opposition, de contact, c'est juste des exercices, c'est quand même incroyable. Imaginez où vous aurez imposé la même chose au monde professionnel, ça aurait été juste impossible.
Bah, on nous l'a fait.
Ah oui, oui, au début, pardon.
On nous l'a fait un petit peu au mois d'août et au mois de septembre, lorsqu'on a eu quelques cas de Covid. Les protocoles ont évolué de semaine en semaine et je dirais que c'était assez perturbant puisqu'ils changeaient de semaine en semaine. Mais à un moment donné, j'ai encore le souvenir d'une semaine où on a dû faire on pouvait mettre que 5 joueurs en même temps sur le terrain et les 5 autres devaient faire autre chose ailleurs, dans un autre endroit, nettoyer tous les ballons, tous les accessoires. Enfin, c'était quelque chose de un peu stressant.
Le bazar. Anxiogène.
Parce qu'on se disait, mais si on se touche, on va mourir. Enfin, j'exagère évidemment, mais c'était un peu anxiogène. Puis depuis qu'on est testé chaque semaine et qu'on est négatif à chaque fois, je dirais qu'on est, on n'a pas d'accolade, bien entendu, mais on est beaucoup plus serein.
Coach Ménard, on rappelle, hein, vous venez de Nangis, un ami auditeur auditrice de Rouen d'Évreux, on est avec l'entraîneur en chef du SPO Rouen. Comment vous vivez aussi là, cette situation incroyable, vous qui avez, encore une fois, j'ai envie d'avoir votre œil sur la question. On sait que dans le sport professionnel, dans le monde du sport, il y a l'État qui a un rôle important pour aider un petit peu les clubs des différentes disciplines, parce que le basket est moins médiatisé que le foot, hein, ou le rugby, même si par ailleurs ils ont des soucis avec les diffuseurs, mais aujourd'hui on a forcément besoin de l'État, de décisions, d'aide financière claire, parce que vous côtoyez votre président, vous avez des homologues et vous avez sûrement des copains dans le milieu qui sont entraîneurs, et peut-être pas que dans le basket. Et on voit arriver des sommes qui paraissent presque trop infimes pour aider les clubs parce que il n'y a pas de billetterie. Les sponsors, ils courent pas à la salle parce que il y a moins de visibilité, bien sûr. Il n'y a pas l'apport du public, il n'y a pas les partenaires qui jouent. Enfin, il y en a certains qui jouent le jeu, bien sûr, et bravo à eux d'ailleurs, partenaires privés, quelle que soit la discipline ou le club. Mais comment vous voyez un peu la chose, là, les décisions gouvernementales? Est-ce que, sans trop, je cherche pas à faire le buzz, hein, coach Ménard, c'est juste, votre regard, vous, qui êtes dans le milieu depuis toujours et qui, encore une fois, baigné dans ce domaine, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense sincèrement que le modèle économique qui a été prôné pour le basket par l'État, depuis maintenant de nombreuses années, à savoir s'autofinancer, moins compter sur les aides publiques, et c'est normal, et donc, en cela, développer l'accueil des partenaires, développer l'accueil du public et les apports extérieurs à l'État. Je pense que les clubs français se sont vraiment immiscés dans cette faille et ont fait le maximum pour développer cette branche commerciale, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça, et de refuser maintenant l'accès à ses partenaires ou à ses abonnés. Forcément, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre parfois. Moi, je personnellement, mais ça n'engage que moi, je verrais d'un bon oeil qu'on puisse au moins accueillir les partenaires, ne serait-ce qu'au Kind Arena, dans une si grande salle, en les espaçant suffisamment, de façon à ce qu'ils puissent avoir leur prestation, avoir leur repas, qu'ils puissent assister au match, enfin, chose pour laquelle ils ont payé.
Bah oui.
Et de même pour les abonnés, dans la limite d'une jauge qui pourrait être établie par l'État, bien entendu, mais au moins donner l'accès aux financeurs de nos sports. Et je pense au hand, au volley, à tous ces sports aussi, ces sports de salle. Donner au moins l'accès à ces financeurs dans les limites de ce qu'on préconise, par exemple, pour les magasins. Ce qui me semblerait tout assez logique.
Ouais. Vous pensez que, là on le voit déjà, c'est l'impact dans ce sport, encore une fois, que je vais citer, parce que c'est celui qui est le plus suivi, le plus médiatisé. C'est pas forcément le plus beau, le meilleur, c'est pas une question de hiérarchie, mais quel foot, où je pense qu'il y a déjà un impact sur la valeur des joueurs, ces transferts des fois qui sont des sommes colossales, on a l'impression que c'est descendu, les valeurs de joueurs et même les salaires sont vus à la baisse. Est-ce que vous pensez que pareil dans vous, votre discipline, le basket français, il y a un avant et un après Covid sur les salaires, sur la gestion d'une équipe, d'un effectif, de les relations, la présidence, est-ce que vous pensez qu'il y a un avant et un après?
Je pense en effet que dès le mercato de cet été, il y a des joueurs qui sont venus en France en Jeep Elite ou en Pro B, qui n'étaient pas accessibles avant, du fait que les pays de l'Est ont, entre guillemets, beaucoup souffert de la pandémie sur un plan économique. Et donc on a des joueurs, on en a un exemple nous avec Mathis Rebec, mais je pense à d'autres joueurs en Jeep Elite aussi, qui n'étaient absolument pas pour le marché français, mais qui se sont retrouvés, entre guillemets, sur le carreau. Nous, on a eu accès à des joueurs, enfin, accès... On aurait pu avoir accès à des joueurs qu'on ne nous avait jamais proposés avant. D'accord. Parce que la France a aussi tout de même une sécurité en termes de salaire et de maintien des salaires, même s'il y a des baisses en pourcentage, qui est incomparable par rapport à d'autres pays. Néanmoins, je pense cette année, on le sent, mais je pense que c'est surtout l'année prochaine qu'on va énormément le sentir, puisque là, les clubs vivent sur, pour la plupart, je ne connais pas les situations individuellement, mais soit sur les PGE, soit sur leurs fonds propres. Et quand ces sommes-là vont être mangées, entre guillemets, il va falloir se serrer un petit peu plus sur la ceinture. En termes d'effectifs, en nombre de joueurs professionnels, mais peut-être aussi en termes de qualité de joueurs, peut-être.
C'est pas que fun, mais en tout cas, la chance que nous avons, nous amateurs de cette discipline, c'est qu'on va quand même en profiter. Voilà, comme vous l'avez dit, il y a eu des décisions qui permettaient de gérer deux rencontres au mois de décembre pour chaque équipe et au mois de janvier. Et donc, on va pouvoir voir aussi bien, on le rappelle, Évreux, par exemple, ce dimanche à domicile face à Antibes, ce sera à partir de 16h. Et vous, demain, qui vous déplacez à Saint-Quentin, dans le cadre de votre cinquième journée de championnat. Et qui sera elle aussi retransmise. Et ça, pour le coup, c'est quand même bien, voilà, de profiter de ces bouffées d'oxygène ou de ces bulles, qui sont avec guillemets proposées, voilà, aux amateurs. Et puis à vous qui pouvez opérer et gérer. Merci Alexandre, je vais vous libérer. Nous, on va avoir une fin d'antenne là dans quelques instants. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris quelques instants et d'avoir répondu à ces quelques questions. On vous l'avait dit au mois de mai, et puis on n'est pas chauvin pour un sou. Oui, on aime beaucoup la LM Basket. Peut-être même qu'on la préfère quelque part de par l'histoire. Mais on respecte beaucoup votre travail, votre effectif, et puis on est content quand même qu'il y ait un maximum de clubs normands dans la division. Donc, comme je vous l'avais dit au mois de mai, je le pense sincèrement, on vous souhaite la plus belle des saisons possibles, coach. Et si vous m'autorisez, je vous repasserai un petit coup de fil là, d'ici 2-3 mois. On fera un petit bilan intermédiaire si vous voulez bien. Et voilà, tout simplement. Merci.
Je vous remercie. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année.
Merci. Tout simplement, il faut rester positif. Une belle rencontre demain. Allez, mince. Je tendrai l'oreille et l'œil dessus. Merci, coach Ménard. Passez de belles fêtes de fin d'année et surtout une belle petite victoire déjà pour amorcer la chose demain. Et à bientôt. Merci, coach.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Eh bien, nous, on va repartir on va difficilement partir en musique à cette heure-là. Dis-moi.
Ouais, 15 Greg. Secondes. Je vois l'affiche de Medine, là. Il y a un documentaire sur France TV Splash qui dure une heure sur Medine. C'est hyper intéressant. On le voit en studio. On voit avec sa famille, on voit avec ses copains, on voit avec le label. Ça vaut le coup d'œil. C'est sorti il n'y a pas longtemps. Fallait voir ça. Voilà.
Ouais, il y a un documentaire aussi sur France Télévisions sur le rap marseillais.
Oui, j'ai vu passer ça aussi.
Qui est très intéressant et où on découvre que même les acteurs actuels de Marseille qui sont un peu décriés particulier que moi-même je trouve un peu bizarre, pour pas dire chelou, eh bien en fait ils sont intéressants.
Ah oui.
En tout cas, c'était un peu autour de la balle orange. On a parlé de la culture, on a parlé des restaurateurs, mais il fallait aussi parler de basket. On aime ça. Et puis, le sport, c'est toujours bien. On peut prendre un ballon sur un panier, jouer tout seul, on peut aller courir. Et puis, on peut faire du sport avec un micro.
Ouais, puis si vous êtes en galère, faites-vous aider, surtout n'hésitez pas.
N'hésitez pas. Merci, Greg.
Je t'en prie,
bonne fête de fin d'année.
On se voit l'année prochaine.
Bye bye, on se voit en 2021, la matinale, c'est fini. Demain, il y a le best-of. Eh, hey, bye bye, Jean-Jean. Bye bye, Mosquito. Bye bye, auditeur, auditrice. C'était cool.